Et tout ceci débute par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors que s'ouvre le cinquième épisode de grève en pointillé à la SNCF, pas question de ralentir le train des réformes, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir. Interview en anglais sur Fox News avant une visite d'État de 3 jours aux États-Unis.
Et puis l'exécutif qui avance sur un autre dossier, le projet de loi Asile et Immigration a été adopté à l'Assemblée nationale à l'issue d'un marathon enflammé de 7 jours.
Une voix contre celle de Jean-Michel Clément a réussi d'ailleurs à ébranler la majorité. Le prélèvement à la source annoncé pour 2019 va-t-il vraiment simplifier la vie des contribuables? Que nous disent les exemples européens? Ce sera l'objet du billet économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis si je vous dis GHP, GBL et que vous ne connaissez pas ces initiales, eh bien c'est que vous ne prenez pas ces drogues et ces drogues se banalisent. Pourquoi? Eh bien on posera la question à Fred Bladou, chargé de mission Nouvelle Stratégie de Sentier auprès de l'association AIDE.
C'est la première visite d'État de la présidence Trump, un privilège donc accordé aux Français. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de 3 jours aux États-Unis. L'occasion d'afficher l'amitié franco-américaine, mais les sujets de discorde ne manquent pas. Et pour amadouer son homologue à Washington, c'est en anglais et sur Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump, qu'Emmanuel Macron a multiplié les arguments pour convaincre le locataire de la Maison-Blanche de respecter, par exemple, l'accord sur le nucléaire iranien ou d'exempter définitivement l'Europe de taxes sur l'acier et l'aluminium. Donald Trump doit se prononcer sur ces deux sujets le mois prochain. Emmanuel Macron, également interrogé sur les mouvements sociaux en France, le président français peut-il reculer? La réponse d'Emmanuel Macron est on ne peut plus claire.
No chance.
Aucune chance. La façon classique de procéder en France, jusqu'à présent, c'était de dire « Nous avons un problème, nous allons mettre encore de l'argent public pour résoudre ce problème. » Ce qui n'est pas la bonne façon de régler la situation. Ce que j'ai dit aux citoyens français avant les élections, c'est que je veux aborder les racines profondes de nos problèmes. Cela prendra du temps parfois, nous devrons prendre des décisions audacieuses, mais nous devons régler la situation en profondeur. Nous allons avoir des résultats. Et je n'ai pas d'autre choix. Parce que si je m'arrête ici, parce que certaines protestations, et elles sont légitimes, mais elles sont une partie minoritaire du pays, eh bien si j'arrête, comment pensez-vous que je serai capable de moderniser le pays et de construire le futur? Ce serait fini. Je vais donc avoir des résultats, parce que c'est mon devoir et c'est mon engagement.
Emmanuel Macron hier sur la chaîne Fox News, le président de la République qui le répète donc, il ne pliera pas, notamment sur la réforme de la SNCF, alors que le cinquième épisode de la grève perlée des cheminots s'annonce et aussi suivi que le quatrième, avec 35% des TGV en circulation aujourd'hui, 30% des intercités et 40% des TER, RER et Transilien. Selon les chiffres dévoilés hier par le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, les syndicats vont-ils durcir leur mouvement? Une intersyndicale doit se tenir cette semaine pour décider de la suite de la mobilisation. L'exécutif qui passe le cap de l'Assemblée nationale pour une autre réforme, le projet de loi Asile et Immigration, après plus de 60 heures de débat et près d'un millier d'amendements examinés, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, l'a annoncé sur les coups de 23 heures hier.
Pour 228, contre 139, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.
Le projet de loi Asile et Immigration adopté, allongement de la durée de rétention à 90 jours contre 45 actuellement. En séance, parmi les concessions aux sensibilités sociales de la majorité, un amendement aménageant la possibilité de travailler dès 8 mois après la demande d'asile a été adopté, ainsi qu'un élargissement des exceptions aux poursuites pénales en cas d'aide au séjour illégal des étrangers, davantage d'exceptions donc au délit de solidarité. En revanche, sur la rétention des mineurs que certains députés demandaient d'interdire, chez les marcheurs notamment, aucun changement n'a été acté. Au grand dam des ONG, mais un groupe de travail sera organisé avec les députés pour continuer la réflexion sur ce sujet. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, satisfait donc de voir son projet de loi finalement adopté, malgré un début de fronde à l'Assemblée.
Et beaucoup disaient, la majorité sera à l'épreuve de ce texte. Et puis nous avons discuté, nous avons convaincu, et je crois que la ligne qui a été adoptée est la ligne qui permet de conjuguer à la fois la prise en compte des réalités, de la nécessité de la distinction entre celles et ceux qui peuvent être accueillis sur notre territoire, et ceux que le plus tôt possible nous devons prendre en compte pour leur permettre de ne pas avoir coupé avec leur lieu d'origine, avec leurs racines.
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, après l'adoption du projet de loi Asile et Immigration, donc hier soir à l'Assemblée nationale, a noté 14 abstentions sur les bancs de La République En Marche et un vote contre, celui de Jean-Michel Clément. L'ex-socialiste élu de la Vienne justifie son opposition par ces mots « Je ne suis pas sûr que nous envoyons aux citoyens du monde le message universaliste qui a toujours été le nôtre ». Jean-Michel Clément, qui à l'issue du scrutin a décidé de se mettre en congé du groupe parlementaire La République En Marche, une majorité tout de même ébranlée à l'Assemblée, le reportage de Julien Langlais.
Abstention, péché véniel, vote contre, péché mortel, avait prévenu le patron de la majorité Richard Ferrand. Alors à l'issue du scrutin, le député de la Vienne, Jean-Michel Clément, a préféré prendre les devants.
Moi j'ai décidé de me mettre en congé du groupe. Quand je vois la manière dont ont été conduites les débats, je m'interroge.
Et ce n'est pas le seul, 9 élus Modem et 14 marcheurs n'ont pas non plus voté cette loi.
Il y a quelque chose qui s'est créé en marche.
Sonia Crimi en fait partie, avec Martine Vonneur et Sandrine Meurck, elles sont venues expliquer les raisons de leur abstention, dénoncer aussi les pressions qui ont conduit au renoncement de Jean-Michel Clément.
Je condamne toutes les pressions qu'il a subies.
Il faut qu'on ait le temps de débattre et qu'on admette qu'il y ait de la diversité et qu'on ait 100% différents.
Qu'on arrête d'exercer des pressions à l'ancienne. Fini, donc la politique à l'ancienne, c'est terminé. Brèche.
Dans ce contexte, le commentaire de Richard Ferrand à l'issue du vote était un peu lunaire.
La majorité a démontré son unité.
Une unité pourtant fissurée. D'ailleurs, pour Sonia Crimi, il y aura un avant et un après le vote de cette loi à l'Assemblée.
On a enfin échangé profondément sur un texte et on va commencer un travail réel des députés En Marche.
La séance est levée. Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le projet de loi Asile et Immigration désormais attendu courant juin au Sénat. En attendant, Amnesty International dit rester mobilisé contre un texte qui, selon l'ONG, reste dangereux pour les migrants et les demandeurs d'asile. L'apaisement va-t-il l'emporter à Notre-Dame-des-Landes? Après plusieurs jours de calme, une semaine à haut risque s'ouvre pour l'exécutif, alors que l'échéance tombe à minuit ce soir pour les régularisations de zadistes avant une éventuelle nouvelle opération d'expulsion. On y revient dans le journal de 7h30.
Vous écoutez les Matins de France Culture, il est 7h07 et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Les services de renseignement français étaient-ils informés du financement du groupe État islamique par le groupe Lafarge en Syrie?
Oui, si l'on en croit Libération à lire ce matin et les propos rapportés de Jean-Claude Veillard, ancien directeur sûreté de la multinationale française. Il a été interrogé le 12 avril par une juge d'instruction à Paris. Cet homme fait partie des 6 dirigeants du cimentier mis en examen pour avoir versé d'importantes sommes d'argent entre 2012 et 2014 à plusieurs groupes armés, dont Daesh, afin de poursuivre l'activité de la cimenterie syrienne en zone de guerre, toujours selon Libération. L'agenda de Jean-Claude Veillard montrerait que les différents services de renseignement extérieur connaissaient en temps réel les équilibres militaires dans le nord de la Syrie et la réalité des agissements de Lafarge. Comment Lafarge informait l'État, c'est un dossier à retrouver dans les pages de Libération. C'est la première attaque contre un centre électoral dans la capitale afghane, mais la troisième dans tout l'Afghanistan depuis l'ouverture des bureaux d'inscription sur les listes électorales pour les législatives d'octobre prochain. Près de 60 civils chiites, pour la plupart, ont été tués hier et 120 personnes blessées à Kaboul dans un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique. À Madagascar, le président de la République reste ferme au lendemain d'une manifestation de l'opposition qui a fait 3 morts et 16 blessés. Une manifestation que le président a condamnée et qui, selon ses termes, s'apparenterait à un coup d'État avant la présidentielle de la fin de l'année. Les explications de Laure Verneau à Antananarive.
Les premiers mots du président de la République de Madagascar ont été pour les victimes de la manifestation de samedi. R. Radjournamampian a ensuite lancé un avertissement aux fauteurs de troubles. À Madagascar, nous respectons et vivons la démocratie. Toutefois, la tournure des événements de ce samedi est tout à fait caractéristique d'un coup d'État, a-t-il déclaré. Il a ensuite enjoint l'armée à prendre ses responsabilités. Et enfin, aux journalistes dont la profession est sacrée, a-t-il précisé, il recommande la méfiance face à la manipulation politique. Dans des termes très généraux et sans aucune annonce, R. Radjournamampian a surtout joué son plus grand atout, la stabilité de la République malgache depuis son élection en 2013. Mais si le chef de l'État a appelé hier soir à l'apaisement, il s'est aussi montré hermétique à tout dialogue, contrairement au Premier ministre et au Président du Sénat. Les lois électorales votées le 4 avril et éléments déclencheurs de la manifestation n'ont pas été évoqués. Or, c'est pour dénoncer des dispositions jugées inconstitutionnelles et des suspicions de corruption autour du vote de ces textes que l'opposition est descendue dans la rue samedi dernier. Le président de la République n'entend donc pas transiger. La manifestation, elle, va reprendre ce matin vers 10h dans la capitale.
Les suites du Ballet Gate à l'Opéra National de Paris. La semaine dernière, un document interne rassemblant les témoignages de 154 danseurs du ballet a été rendu public via une fuite dans la presse. Dans ce sondage, près de 90% des danseurs remettaient en cause la direction d'Aurélie Dupont et près de 77% des danseurs se disaient victimes ou témoins de harcèlement moral, 26 témoins ou victimes de harcèlement sexuel. Une crise aiguë dans l'institution qui fêtera l'an prochain ses 350 ans. Le regard de l'historienne Sylvie Jacques-Mioche, professeure d'histoire de la danse à l'école de l'Opéra.
Il y a peut-être, même vraisemblablement, des archaïsmes. Mais il faut bien voir que l'histoire de l'opéra, déjà, c'est une histoire longue. Et il faut bien se rendre compte que ces modes de fonctionnement, ils évoluent progressivement et généralement par à-coups brutaux. Un peu comme des plaques tectoniques qui ne peuvent plus tenir ensemble et qui se brisent. Et il va y avoir des répliques pour que ça se remette en place. Et là, il faut bien tenir compte qu'on a eu la direction de Brigitte Lefebvre qui a été très longue, 20 ans. Et puis, après son départ, il faut reconstruire quelque chose d'autre. Et là, on a l'impression que, justement, le futur n'a pas été réellement pensé. Donc, on peut comprendre aussi que ces jeunes, ils sont formés, ils ont quelque chose artistiquement à dire. On est très, très loin des apprentis danseuses du 19e siècle et ils n'ont pas toujours l'occasion de le faire. Et ça, on peut comprendre aussi les frustrations que ça engendre. Je pense que c'est bien de crever l'abcès et que, justement, ça va permettre aux plaques tectoniques de retrouver un nouvel équilibre pour les 20 années qui viennent.
Le malaise au sein du ballet de l'Opéra National de Paris, c'est un dossier signé Cécile de Kervazois, retrouvé sur franceculture.fr. Salah Abdeslam sera fixé sur son sort ce matin. Le tribunal correctionnel de Bruxelles va rendre son jugement à l'encontre du seul membre encore vivant des commandos djihadistes du 13 novembre 2015, mais c'est pour sa participation à une fusillade contre des policiers à Bruxelles en mars 2016 que Salah Abdeslam risque 20 ans de prison. On y revient dans le journal de 7h30.